Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bise, le podcast qui analyse les stratégies business, communication digitale et marketing pour les entrepreneurs qui veulent lancer ou relancer leur marque. En format solo ou aux côtés d'entrepreneurs qui partagent avec nous leurs problématiques et leurs succès, je te propose d'embarquer à mes côtés pour un méga coup de boost pour ta marque et ta confiance. Sincérité et sourire garanti. Moi, c'est Floriane, actuellement nantaise après être passée par Lille et Paris. Je suis bretonne d'origine et la fondatrice de Le Boudoir du Biz. Je suis consultante et formatrice en communication, images de marque et podcast. Place à ce nouvel épisode et bonne écoute, La Bise. Fail de marque, quand les marques auraient mieux fait d'y réfléchir à deux fois. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une de mes passions dans mon métier, à savoir analyser les stratégies de marque. Mais je dois t'avouer un truc, mon péché mignon, c'est vraiment d'analyser leurs fails. Qu'ils soient stratégiques, liés à leurs réseaux sociaux, leur positionnement ou le lancement de nouveaux produits et services, je me régale, je me délecte à essayer de comprendre ce qui a bien pu les mener à prendre de telles décisions. J'imagine des gens autour d'une table, parfois même une agence, listant diverses pistes plus ou moins abouties. Souvent, on a assez peu d'éléments, malheureusement, sur ce qui a pu mener ces marques, hautement reconnues d'ailleurs, à littéralement se planter, se foirer. Mais dans ces cas-là, j'enfile mon trench d'inspecteur gadget, sors ma loupe télescopique et sillonne le web et les livres pour en savoir le plus possible. Je me suis dit que c'était trop bête de ne pas te les transmettre. Car de ces fails parfois hallucinants ressortent de très bonnes leçons pour nous. L'idée est donc pas de dire « gna gna gna, ils ont été trop nuls » ou « mais quelle agence a bien pu pondre un truc pareil ?» ou encore « il y a vraiment des gens qui ont été payés pour ça ?» Quoique.
Je l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Bravo Lucien !
Mais l'idée, c'est de transposer ces erreurs sur nos propres business, d'aller plus loin pour voir si on aurait pu faire la même chose ou pas, et idéalement de s'armer contre ce genre de fail. Rappelons cependant que ces fails font partie de nos vies d'entrepreneurs et que toute bonne chef d'entreprise vivra tôt ou tard et à maintes reprises des situations liées à une erreur de jugement stratégique. Alors, l'échec, ce n'est pas mal, ça nous fait grandir, ça nous fait avancer, ça nous met par terre à un moment où on n'a pas d'autre choix que de se relever. Alors c'est parti. Aujourd'hui, je te parle du lancement d'un produit d'une marque que tout le monde connaît. Cette marque, c'est Colgate. Oui, oui, la marque de dentifrice et de brosse à dents. Et cet exemple-là, je dois avouer, c'est une pépite. Probablement mon exemple préféré, aussi drôle qu'enrichissant pour nous. Un peu d'histoire d'abord, un peu une petite minute culture. Colgate a été fondée par William Colgate en 1806 à New York. Dans un premier temps, William vend des bougies et des savons. Il a l'obligation de prendre une petite pause en 1833 parce qu'il est victime d'une crise cardiaque. Donc 7 ans plus tard, il reprend les rênes de son entreprise pour vendre des savonnettes individuelles. Il décède quelques années plus tard et passe le flambeau à son fils Samuel Colgate. Joli prénom ça. C'est alors que la gamme de Colgate & Company s'étoffe en proposant son premier savon parfumé. Puis la fameuse pâte à dents, vendue en bocaux à l'époque en 1896. C'est très mignon ce terme « pâte à dents » d'ailleurs. Je vote pour que l'on repasse à ce terme désuet et tellement explicite. Devant ses succès, la marque se développe et elle crée son premier laboratoire de recherche. Et dès 1908, ce sont les 5 fils de Samuel Colgate, vraiment très joli prénom, qui dirigent l'entreprise et lancent massivement la vente de leurs pâte à dents en tube. Précisons également que Colgate fusionne très vite avec Palmolive, une entreprise qui crée des savons constitués d'huile d'olive et d'huile de palme. Alors je vous épargne les histoires de fusion, acquisition de Colgate entre les années 1900 et 2000, ça n'a pas arrêté, ça a notamment fricoté avec Unilever. Mais en gros, Colgate Palmolive détient aujourd'hui des marques telles que Sanex, Tahiti Douche, la Javel Lacroix, Peck, Soupline, Elmex, mais aussi des produits pour les animaux tels que Catit ou Hills. Et bien sûr, Colgate et Palmolive. T'as suivi ? Aujourd'hui, le groupe Colgate Palmolive est installé dans plus de 200 pays via leur site de production. Mais en France, on recense deux usines à Rieux-le-Pape, je sais pas où c'est, et à Compiègne, qui est l'usine la plus importante du groupe en Europe. La marque Colgate commercialise principalement des produits d'hygiène dentaire. Et c'est un élément très important à savoir pour la suite. Teasing, teasing. Retour en 1982. J'étais même pas née. Les équipes de Colgate sont pleines d'ambition, Gonflés par le succès de leur dentifrice depuis près de 80 ans, ils décident de diversifier leur gamme et développer leur impact. On est alors aux États-Unis et un nouveau marché ne cesse de prendre de l'ampleur, les plats préparés et notamment surgelés. Ils ont alors une idée, proposer une expérience cliente complète du repas à l'hygiène bucco-dentaire. Oui, oui, vous avez bien entendu. Quelle belle idée. L'idée, disons, interpellante. On se dit alternativement que c'est osé et sacrément culotté. Ils croient à fond en leur idée. Ils lancent donc plusieurs produits alimentaires, dont des lasagnes au bœuf. On adore. Le problème majeur, c'est le suivant. Imaginez un packaging de lasagnes surgelées logoté Colgate.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Colgate a voulu nous faire saliver et c'est un énorme flop côté vente. Les clients bloquent, ils ne parviennent pas à se projeter sur des lasagnes Colgate. Ils y vont de leurs petites blagues en se demandant si elles sont mentholées, etc. Et d'ailleurs, je vais vous glisser un petit visuel du packaging dans l'article de blog de ce podcast. Vous le retrouverez en descriptif de cet épisode. Quelques mois à peine après son lancement, fin de l'aventure Colgate Kitchen. Alors moi qui rêve de visiter le Museum of Failure, cette exposition itinérante qui a été lancée en 2017 de mémoire, en Suède, présente les plus gros flops de marque. J'aurais pas le plaisir d'y découvrir malheureusement ce packaging de lasagne surgelée, puisque Colgate a refusé d'y présenter ce produit emblématique. Allez les gars, un peu d'humour et de prise de recul, ça aurait été chouette aussi. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient du fail de Colgate? On peut déjà imaginer qu'il y a une erreur de positionnement. Sachez que malgré mes talents d'enquêtrice hors pair, je n'ai pas réussi à savoir si une étude de marché a été lancée à cette époque-là. Quant au client idéal de la marque, il n'a probablement pas été consulté. Vu les moqueries retentissantes au lancement de ce produit, au fait j'y étais pas, hein, c'est ce que j'ai appris, on peut clairement supposer que Colgate n'a absolument pas consulté ses clients. Et si c'était juste une lubie lancée à la va-vite, sans stratégie? Ça pourrait.
Booba avait là une bonne idée.
La seconde énorme erreur de la marque, c'est d'avoir voulu apposer son logo sur le packaging tel quel. Oui, le même que celui d'un tube de dentifrice. Alors dans ces cas-là, et de manière totalement logique, le cerveau fait ses propres raccourcis. Ce produit, c'est un échec, parce que les consommateurs ne s'y sont pas retrouvés. Le gap était beaucoup trop important entre l'hygiène bucco-dentaire et un produit alimentaire. A contrario, par contre, quand des marques de mode de luxe se rapprochent des marques de champagne, par exemple, bah moi je trouve que ça matche parfaitement. Parce que les deux univers font appel au même code, finalement. Là, mon cerveau s'emballe. Pourquoi ça me choque pas, par exemple, que Yamaha produise des pianos et des motos? Ou alors les moulins à poivre et les voitures de chez Peugeot? Vous avez 2 heures. C'est quoi les leçons à retenir du fail de Colgate? D'abord, c'est une étude de ton client idéal et de ses besoins. Tu feras. Bah oui, pour toute entreprise, que tu vendes des produits ou des services, tu dois absolument connaître sur le bout des doigts ton persona, ton client idéal, bref, ta cible. On ne parle pas que de son âge ou de son sexe, mais bel et bien de ses habitudes de vie, de ses besoins, des raisons pour lesquelles il aimerait ta marque, pour lesquelles il s'y attacherait, pour lesquelles il deviendrait client et client fidèle. Alors si c'est pas déjà fait, go, 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 c'est primordial pour avancer sur le bon chemin, communiquer de manière fluide et efficace. Deuxième leçon à retenir selon moi, une prise de recul de tes idées, tu prendras. Bah oui, on a des idées à la pelle, on se demande constamment si on doit les lancer. En tout cas, moi, c'est vraiment mon sujet. Mon secret sur ce sujet-là, par contre, c'est le temps. Je suis de celles qui sont impatientes. Et pourtant, il est indispensable de prendre du recul sur nos idées en vidant notre cerveau sur un carnet ou sur notre PC, mais aussi en y accordant quelques semaines de réflexion. Pourquoi? Bah parce que pour voir si la flamme brille encore déjà, pour voir si c'est juste pas une idée qui nous a traversé l'esprit, qu'on a trouvé géniale et qui finalement perd en puissance au fin fond de nous au fur et à mesure. C'est bien aussi de prendre du temps pour peser le pour et le contre et bien sûr pour consulter tes potentiels clients. Troisième leçon à retenir de cette aventure Colgate, un positionnement précis, tu travailleras. On se démarque. On n'est pas obligé de se démarquer par son produit ou son service. On peut surtout se démarquer par sa communication, par sa cible, par sa stratégie éditoriale, par son identité visuelle, etc. À condition, bien sûr, de répondre aux besoins et envies de tes clients. Quatrième leçon, t'éparpiller, tu éviteras. Intimement lié au fait de prendre du recul, finalement, on a vite fait de nous éparpiller, de ne plus savoir prioriser, de ne plus pouvoir faire le tri dans ce qui est une bonne idée ou une moins bonne idée. C'est d'ailleurs un de mes plus gros défauts pour ma part. Alors là, encore, on vide son cerveau, on met les choses à plat et on prend le temps de faire les bons choix. Et si on fait le mauvais choix, bah c'est pas grave, on fait le bilan, on tire les leçons et on se relève doucement mais sûrement. J'en ai fini avec mon analyse du fail de Colgate et de ses lasagnes. Si cet épisode t'a plu, partage-le à celles et ceux qui aimeraient découvrir les dessous des flops de marque ou sur les réseaux sociaux. Et je suis toujours preneuse, bien sûr, d'un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, évidemment. Et je t'envoie un bisou virtuel pour tout commentaire laissé sur cette plateforme. À très bientôt et la bise !